t'as le sourcil bonnet, t'as le sourcil vainqueur. Ce chien, je représentais pour lui, je pense que j'étais une grosse saucisse. J'avais des saucisses partout dans mes ourlets, dans mes poches. Je n'ai jamais remis les pieds aux États-Unis. Je ne sais même plus comment le dire. Je ne suis pas né avec l'Oscar et je ne suis certainement pas mort avec l'Oscar. Bonjour, c'est Jean Dujardin. Cliquez, cliquez.
Bonsoir et bienvenue dans Clic. Ce soir, on reçoit Jean Dujardin. Bonsoir, Jean.
Bonsoir.
On va faire un truc ensemble que j'ai toujours voulu faire avec vous. Je voudrais qu'on fasse une masterclass d'acteur, qu'on parle de ce métier. Parce qu'à chaque fois que je vois des interviews de Jean Dujardin, on parle de tout, sauf du métier que vous exercez dans la vie. C'est pas un peu frustrant?
C'est gentil de resituer. C'est vrai, c'est pas mal. Frustrant, non, c'est comme ça, je suppose. Parfois, on cherche le poil à gratter, alors qu'on pourrait aussi parler de plaisir, on pourrait parler aussi de motivation, de la raison pour laquelle on fait ce métier. D'ailleurs, on n'a pas vraiment... Je ne sais toujours pas pourquoi je fais ce métier. Il suffirait de demander à certains acteurs et tu n'aurais pas plus la réponse. Pourquoi on a besoin d'être un autre? Pourquoi on a besoin de se plonger dans cette aventure-là? Parfois, de se faire un peu mal. C'est un super métier, hein, je ne m'en plains pas, mais il y a encore plein de choses invisibles, ouais. C'est intéressant, en tout cas, je suis partant.
Invisible, c'est ce que vous êtes dans les médias. Et est-ce que c'est parce que justement on vous pousse à être tout sauf un acteur?
Je sais pas. En tout cas, j'aime pas qu'on me pousse à être autre chose que ce que je suis. C'est ça qui peut être un peu pénible. C'est-à-dire, on voit bien maintenant que les choses sont parfois un peu clivantes. Il y a des raccourcis qui sont vite pris. On peut penser que t'es un acteur militant, que t'es si tu dis non, ça fait des années que je vous le dis. Notamment quand on me pose la question sur la France, je peux m'adresser ou je peux dire des choses avec beaucoup de véhémence ou du moins de passion. C'est simplement juste pour dire en gros, ça fait 25 ans que la France me donne beaucoup. Les gens m'ont donné beaucoup depuis cette histoire que j'ai avec eux, depuis même un gars et une fille. Mmh. Et que c'est juste une envie d'être un peu redevable. C'est juste une envie d'être dans la... L'envie de redonner, de dire aux gens merci, c'est un grand merci, c'est pour ça en fait, c'est juste un acte d'amour. Le reste, franchement, je rentre certainement pas dans les...
Avec tout le respect que j'ai pour vous, une phrase comme ça, dans un moment normal, ça serait une banalité. Mmh. Pourquoi est-ce que ça devient une position?
Parce que l'époque a changé, parce qu'elle est comme ça. Enfin, il suffit de la regarder, l'époque, on voit bien. Et tout est beaucoup plus crispé. J'ai juste envie de dire... Un grand merci à ces gens qui m'accompagnent et ça ne veut pas dire que je suis frappé de cécité, que je ne vois pas ce qui se passe dans ce pays et que je deviens totalement hors sol ou que je suis devenu OSS 117. On me demande, eh ben je vous réponds. Les gens que je vois, que je rencontre, sont des gens parfois adorables, très gentils, qui aiment aussi leur pays, même s'ils vivent des choses absolument difficiles. Alors, est-ce que c'est mon métier d'en parler? Je ne crois pas. C'est pas moi, avec mon statut d'acteur, qui vais changer quoi que ce soit. J'essaie juste, peut-être même par politesse, de dire d'envoyer quelque chose d'un peu positif, parce que vu que c'est quand même, on entend quand même globalement du sombre, c'est de la gratitude, en fait, que j'ai. Voilà, j'ai de la gratitude parce que je sais que j'ai commencé très bas, dans les bars, j'ai commencé au café-théâtre, j'ai eu une très belle histoire avec ce public et ce lien, et j'y tiens et j'ai simplement envie de dire merci d'être là encore et toujours.
Bah c'est bien important de jamais oublier d'où on vient.
Ouais, bien sûr.
Et de jamais oublier les gens d'où on vient.
Ouais, mais je tu sais, de la même manière, il y a beaucoup de fantasmes en fait sur les acteurs, parce que des fois ça arrange. Mais moi, il m'est tombé un truc sur la tête qui s'appelle l'Oscar, qui est pour le coup un très bon souvenir et qui est très sain. Mais c'est que j'ai toujours dit, je reviens dans ce pays, mais j'ai beau le hurler depuis plus de 10 ans maintenant. On croit que j'habite à Pacific Palisades. On croit que j'habite aux États-Unis. Je n'ai jamais remis les pieds aux États-Unis. Je ne sais même plus comment le dire. Je suis très heureux dans ce pays et je suis très heureux de ce qu'on me propose.
Et puis surtout, c'est qu'il y a une anomalie non mondiale. C'est que vous êtes le seul acteur, je pense, de l'histoire qui a eu un Oscar. Et qui n'a pas voulu continuer à Hollywood.
Oui, c'est sûrement une anomalie.
Mais c'est mondial, c'est historique.
Ah, c'est historique, mais c'est même, ça se trouve, complètement débile, hein, ce que j'ai fait. J'en sais rien. En tout cas, je suis, pour le coup, très centré. Ça me va très bien, en fait. Ça me va très bien, parce que, franchement, je pense que mes meilleurs rôles sont ici. Je l'ai toujours dit, quand je peux traverser dans la même année Le Dain, OSS 117 et J'accuse, de la même manière, là, je viens de faire le film de... de Yann, l'homme qui a rétréci, et le Gianoli sur l'occupation. J'ai des émotions. Enfin, je suis pas sûr qu'on m'aurait donné ça aux États-Unis.
Puis il y a aussi le rapport à la compréhension. Et la sincérité du métier d'acteur. Un bon acteur, c'est quelqu'un en général qui comprend ce qu'il joue. Vous avez...
C'est toujours mieux, oui.
Ce qui est toujours mieux, vous avez dit que moi, je comprends pas forcément les rôles qu'on m'a proposés aux États-Unis. Et c'est pas qu'une question de langue, c'est je comprends pas le.
Non, non, c'est pas qu'une question de langue, parce que la langue, tu peux t'y mettre, il y a pas de question. En 6 mois, je pense que c'est bien réglé. Encore que j'ai pas vraiment envie de faire l'effort. Non, c'est juste. C'est leur point de vue sur toi. Moi, j'ai toujours pensé, mais ça n'engage que moi, j'ai toujours pensé qu'un acteur français restait quand même un acteur français aux États-Unis. Mmh. Donc, effectivement, on va te faire faire quand même des choses un peu archétypales et il va falloir l'accepter. Alors, est-ce que ça peut rendre très vaniteux et te dire, ça y est, je suis aux États-Unis, c'est super, je fais un film là-dedans. Je ne suis pas sûr d'avoir, moi, une grande émotion, je ne suis pas sûr de me sentir très bien. Là, j'explore beaucoup plus maintenant, et j'explore encore, quoi. Même là, en faisant L'homme qui a rétréci, je me dis, c'est quand même génial. Surtout que maintenant, on peut se permettre de faire des films comme ça, d'aller chercher des films chez Universal et de s'amuser, et parce qu'on a les talents en plus pour les fabriquer.
On va en parler de L'homme qui a rétréci, parce qu'on va être rejoint par Yann Kounen, qui est, je le dis pour moi, un des plus grands réalisateurs français. On a de la chance d'avoir un Yann Kounen. Et en fait, il y a quelque chose aussi avec Yann Kounen, on va en parler tout à l'heure, c'est le point commun. Je vous ai vu sur quelques plateaux. Et en fait, ils vous regardent comme des oufs, alors que c'est eux les oufs à vous regarder comme des oufs.
Tu trouves qu'on nous regarde comme des oufs ?
Non, mais avec des grands yeux, en mode, allez, fais le spectacle.
Ah ouais, ouais.
Et je vois que ça vous gêne. Je le vois, ce truc.
Mais parce que j'ai ma petite pudeur aussi.
Bah ouais.
C'est vrai que je me planque souvent, qu'on me voit pas beaucoup, parce que je pas forcément l'impression d'avoir énormément de choses à raconter. Et puis parce que j'ai l'impression que je les raconte dans les films, ça sert aussi à ça. Hein. Je déverse, je ne sais pas d'ailleurs ce que je verse dans ces films, mais il y a des thèmes qui sont récurrents.
Il y a un film miroir avec L'homme qui rétrécit, et c'est pas du tout le film avec Virginie Efira.
Non.
C'est Le bruit des glaçons de Bertrand Blier.
Ah ouais. Ouais. Vas-y, dis-moi, explique-moi.
Bah, c'est le rapport à la perte.
Ouais.
Pour moi, L'homme qui rétrécit.
La première fois qu'on me le dit, c'est bien.
C'est
vrai.
Un film qui parle d'un homme qui est en train de tout perdre. Qu'est-ce qui se passe quand on tombe ?
C'est une espèce de rétrécissement social, amoureux.
Exactement.
Oui, c'est vrai.
Affectif.
Tu l'as pas dans Brise de Nice, mais pas loin. Ce sont des thèmes assez récurrents chez moi.
Non, mais il y a un vrai lien aussi avec Brise de Nice.
Oui, l'isolement. Le daim aussi. Ouais. L'isolement. La finitude.
Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Brise de Nice a cartonné. C'est parce que Brise de Nice, on dirait comme ça que c'est un idiot fini, mais on a tous un Brise en nous, en fait.
Bah, ça, je te confirme. Il a fallu que je l'écrive. Il a fallu que je l'écrive parce que. Il a fallu que je le fasse, en fait, avant de me faire gauler, quoi. Avant de me faire griller. Mais Brise, c'est évidemment basé sur l'humiliation qu'on vit et qu'on a besoin de redégueuler, sûrement, parce que ça a été trop, quoi. J'ai pu passer, moi, par des phases comme ça, enfant comme tout le monde d'ailleurs. On a tous vécu l'humiliation. Alors après, on la digère plus ou moins, on l'accepte plus ou moins. C'est un truc que je n'accepte plus du tout. Je n'aime plus voir quelqu'un se faire humilier.
C'est la question que je voulais poser sur la découverte de ce métier, passer de l'ombre à la lumière en se disant voilà, j'ai mon job du quotidien, je prends un RER, un métro, je me retrouve dans un café-théâtre, et là, je vois une porte. Mais pas juste une porte pour rentrer dans un café, une porte pour changer de vie.
C'est la seule solution, ouais. Finalement, c'est la plus cohérente, parce que c'est un truc que j'ai toujours fait. Moi, je suis dans une fratrie de 4 garçons, t'es le dernier, il faut que t'existes. Et j'existe au bout de la table, et je vois mon père me regarder, et qui m'encourage dans ses yeux, qui est en train de me dire « Bon, t'es peut-être pas encore acteur, ça s'appelle un peu branleur, tu fais marrer, t'as l'air d'aimer ça. Ok. » C'est assez cohérent que tu rentres dans un bar et que tu dises « Bonjour, vous avez une salle en bas, est-ce que je peux jouer ?» Le patron qui te dit « Mais moi, j'ai jamais fait ça. » Je dis « Moi non plus. » On fait comment ?« Bah, je sais pas, vous prenez les consos, vous me donnez 200 francs. » En francs, tu vois. J'ai 23 balais, mais je suis très libre. J'ai un sac, un paravent et mes sketchs. C'est la joie absolue. Je peux même pas dire que j'ai galéré. C'est tellement merveilleux. C'était un truc dans les années 90, je suis pas sûr qu'on puisse le faire maintenant. Puis maintenant, de toute façon, t'as ton portable, tu fais ça dans ta chambre et t'es plus ennuyé. Là, il y avait la démarche de l'aventure du... Tu vois, au bout de la rue de Lap à Bastille, te dire, c'est génial, quoi. C'est absolument génial, je peux jouer là, ouais. Autorisation, quoi. Donc, je m'autorise. je m'autorise à essayer de briller, ou du moins à me faire du bien avec ces personnages qui m'améliorent.
C'était quoi le retour à la maison et le job du quotidien à côté de ça?
C'était, je travaillais sur les chantiers. J'avais dit à mon père, je voulais travailler sur les chantiers. Il avait une petite boîte de métallerie, serrerie métallerie. Donc j'ai travaillé sur les chantiers avant le service militaire. Et j'étais très heureux parce que de la même manière, j'avais un salaire. Je bossais, alors tu portais des trappes d'ascenseur dans les chantiers, etc. Mmh. J'observais les mecs sur les chantiers, donc c'était vraiment vachement inspirant pour l'écriture. Le vendredi soir, tu vas à Paris, tu joues dans un peu dans les caves, tu te balades dans les cabarets, tu vas au pied de la butte à minuit, t'arrives pareil, un peu, tu tapes à la porte, j'ai une demi-heure de sketch, je peux jouer, me dit, vas-y, montre-moi, fais-moi 3-4 sketchs. Tu joues devant 7 Chinois touristes, tu vois. Et c'est assez marrant. Tu finis à 1h30 du mat. T'as ta vie, quoi. T'as saisi ta vie, quoi. Je voulais pas être ailleurs. Mm. J'avais une petite 205, un peu foutue, un peu mal foutue, un sac derrière, je dormais sur le canapé du frangin. Et c'était joyeux. Et tout était possible. Et t'écris. Tous les jours, t'écris.
Et quand on croise des comédiens, des comédiennes, qu'on revient du chantier, qu'eux, ils ont aussi leurs rêves. Il y en a pour qui la vie est plus facile, d'autres ouais. pour qui elle est aussi peut-être plus difficile. Mmh. Comment on vit dans ce magma-là?
Comment on vit avec quoi, tous ces acteurs qu'on ouais. voit, ces gens? Tu vois, tu avais des scènes, j'ai des souvenirs comme ça, j'ai des flashs. Je me souviens avoir vu Éric et Ramzy au Bec Fin, espèce de café-théâtre avec un plafond qui arrivait à 1,40. Autant te dire que Ramzy mmh. jouait comme ça. Des sketchs totalement absurdes où tu arrivais au field, tu vois, dans le 12e. Où tu voyais Danny Boone qui était le prince du piano. Il y a eu des soirs, on en a reparlé avec Jamel, t'as un soir où on s'est vu, on rentrait tous un par un, et t'avais Gad Elmaleh, Jamel, Éric Ramzy, moi, Bruno Salomon. On était tous dans ces années-là avec une envie d'exister sur ce plateau où t'avais une centaine de spectateurs et t'avais le droit à un sketch. Et si le sketch dépassait le temps, en tout cas, si tu ne saisissais pas le public, t'avais un petit coup de piano qui te faisait « casse-toi, faut pas rester ». Et c'était vachement stimulant, en fait, de se présenter, de se regarder, de se renifler, de se dire « tiens, il est bien ton sketch, il est pas mal ». Mais tu te cherches aussi, on ne savait pas. D'ailleurs, moi, je n'étais pas dans le stand-up, je faisais des personnages. Mmh. Est-ce que j'allais y rester, d'ailleurs? C'était la question. Je me disais « est-ce que je vais me faire un spectacle comme ça pendant 10 ans, 15 ans ?» J'ai toujours su que je n'y resterais pas. Surtout en voyant tous ces mecs qui étaient quand même des bêtes de scène. Mmh. À commencer par mon pote Salomon, qui était quand même qui était un prince
immense
sur scène. C'est-à-dire que la tête, les expressions de Jim Carrey et la gueule de Brando. Quoi.
Et une voix
absolument folle. Et donc très rapidement, tu dis je vais prendre la tangente et je vais peut-être me diriger vers la caméra. Peut-être qu'elle. J'avais du mal à projeter moi. Je me sentais pas aussi à l'aise à projeter sur scène. Je savais que la caméra viendrait me chercher. Mmh. Je pourrais bosser plus les variations. Ça me correspondait un peu plus.
La caméra, c'était l'aventure Graine de Star?
Ouais, la caméra, ouais, les premiers plateaux, effectivement, où tu regardes, on te dit caméra à gauche, caméra devant, caméra à droite, où t'es assez effronté, tu te dis, bah, je me sens à l'aise, bah, j'y vais. De toute façon, j'ai 4 minutes pour exister. Mmh. Et si ça s'arrête, au moins, j'aurais vécu ça.
Il est fort ce mot, exister.
Ouais. Bah oui, parce qu'il faut.
Vous ne sentiez pas exister dans la vie normale sans ces 4 minutes?
Sans mes personnages.
Ouais.
C'est surtout sans mes personnages. Mais je crois qu'il y en a plein de jeunes. Enfin, c'est difficile de te dire à 24 ans, je suis qui, je suis quoi. Je le vois même là, même encore maintenant. Hein, c'est un truc qui correspond à entre 20 et 25, où j'en fais quelque chose de cette vie, où je me pousse un peu, où j'attends que ça arrive. C'est souvent d'ailleurs la question qu'on me pose, tu sais, j'ai souvent des jeunes gars qui viennent me voir dans la rue, qui me disent « Ah, j'aimerais bien faire ça, qu'est-ce que je peux faire ? Vous n'avez pas un plan ?» J'ai dit « Tu sais, le plan, déjà, je ne te connais pas, ça serait très malhonnête de te dire « Ouais, ouais, bah, donne-moi ton numéro, je te rappelle, je ne vais pas le rappeler, je ne sais pas qui c'est, j'en sais rien, je ne peux pas t'aider comme ça. » En revanche, vérifie si tu aimes ça, regarde si tu aimes bien le jeu, si tu aimes bien jouer, puis si tu n'y arrives pas tout seul, bah, il faut t'unir, en fait, il faut te mettre avec un copain, tu fais un duo. Ou un trio, ou une équipe. Nous, c'est ce qu'on a fait avec les Nous, c'est nous. On s'est dit, viens tous les lundis, on s'est dit, venez, on déconne ensemble, parce qu'on s'aime bien en plus.
On est une clique.
Ouais, on est une clique. Et en fait, c'est pas mal d'être une clique, parce que ça te permet de percer plus fort, de percer plus vite, et ensuite peut-être d'aller prendre ton tracé. Sauf s'il y a eu un pacte de sens, disons, on se quitte jamais, ce qui n'était pas notre cas non plus, quoi.
Ça arrive jamais, ça?
Non, Ça arrive jamais. Mais moi, j'ai eu l'opportunité d'avoir un gain-fille. Un gain-fille a été une ouverture absolument merveilleuse. C'est là où j'ai fait mes gammes, quoi, aussi. Mmh. C'est là où j'ai enlevé les perruques, c'est là où j'ai pu être un trentenaire, beauf, lambda.
Et puis même goûter à l'écriture, au rapport au texte, ça a été une école formidable.
Oui, c'est des lundis entiers de lecture et c'est un tournage du mardi au vendredi où on fait, je crois, on a fait 4000 sketchs en tout, en 4 ans.
Il y a eu souvent un espèce de mépris des acteurs qui venaient de la télé.
Ouais.
Alors que quand on fait un format quotidien comme ça, on accomplit ce qu'on appelle la théorie des 10 000 heures. Quand on dépasse les 10 000 heures à faire une activité, c'est là qu'on devient bon.
Ouais, c'est possible. C'est possible. En tout cas, je ne me suis jamais arrêté. Je n'ai jamais regardé derrière moi. Je ne me suis jamais dit, oh, ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans. On s'est pris la notoriété de plein fouet dans la deuxième année. Et j'ai vraiment eu l'impression de faire mon métier. En plus, c'est du plan séquence. Donc, tu as vraiment les clés de la maison. C'est comme condition théâtre. Mmh. Alexandra jouait très vite. On avait ce duo qui s'est créé pratiquement immédiatement au casting. Donc ça a été très très enthousiasmant et très formateur. Oui.
Ça marche comment dans la rue quand on passe de peintre en bâtiment à chouchou et loulou?
Bah c'est une grande tape dans le dos. C'est oh t'es con toi. Toi t'es un con toi, avec ta belle-mère là. Tu m'as fait marrer. Tiens viens. Tiens bois un coup. Tiens tu deviens le copain en fait.
T'appartiens aux gens.
Ouais 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 bien sûr.
Et oui. on se laisse appartenir aux gens ou il y a un moment où ça résiste?
Non. Il ne faut pas hésiter. Parce qu'en fait, c'est très. Mais une fois de plus, c'est ce que je disais en commençant. C'est la belle rencontre que j'ai. Moi, je pense que le lien, je l'ai depuis un gagne-fille. C'est ça que je dis dans ma passion pour. Ma passion, c'est beaucoup trop. Bon, du moins, mon désir de dire que j'aime ce pays, c'est les gens qui l'occupent. C'est ce qu'ils me font. Et même encore, là, dans la rue, quand un mec me croise et qu'il me dit comment est votre blanquette, je dis, elle est bonne, encore hier. C'est comme ça, on se croise, c'est très amusant. Non, on vit ça avec... on s'adapte, en fait, on s'adapte et c'est très touchant. C'est un peu trop exagéré, évidemment, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'il a vu de moi pour me parler comme ça? Qu'est-ce que je représente? Même encore, tu vois, après 25 ans de métier, tu dis, mais... Pourquoi on me regarde comme ça? C'est-à-dire que tu te dis pas forcément que t'as une tête connue quand tu te réveilles le matin. Mmh. C'est en sortant dans la rue, on te le rappelle. Bon, t'es pas un imbécile, tu sais à peu près ce qui se passe, mais ça peut paraître parfois exagéré, mais non, c'est simplement juste... tu fais partie d'un souvenir, et il faut l'accepter, et c'est vraiment très agréable et très sympa.
Et quand on doit dire « papa, maman, maintenant j'ai une tête connue »
Bon, ça dépend de la famille. Moi, tu sais, quand ma mère, on lui demande « Vous êtes content, vous êtes fier de votre fils ?» Elle dit « J'ai 4 fils. » C'est la meilleure des réponses. Voilà comment j'ai été élevé. Donc, il n'y a pas de traitement de faveur.
J'aimerais qu'on regarde un extrait ensemble. On va cliquer sur « Film culte ». C'est disponible sur l'app Canal, OSS, Le Caire, Nid d'espion. Et j'aimerais qu'on parle d'une technique que j'appellerais la du jardin touch.
Ah oui ?
C'est le jeu des sourcils. Alors ça, j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez après.
D'accord.
Qui êtes-vous ?
OSS 117. Pour vous servir.
J'aurais dû m'en donner chaise !
Au Wiedersehen, Herr Colonel ! Et merci d'avoir choisi OSS 117 Airways. Ça va, Jack ?
Ça va, Hubert.
Alors ? Allons redresser cet avion.
J'arrive.
Toujours barré.
Non, c'est un jeu fin, réaliste. C'est un jeu. Ben, ça me fait marrer parce que, c'est les souvenirs que j'en ai. Ce que je revois, Schiffman derrière la caméra, j'entends le rire de Michel. C'est tellement codifié. Tout est super codifié. Tout. C'est le premier OSS, la référence, c'est Dr. No. Mm. Donc c'est le Sean Connery Dr. No. Donc évidemment, je pousse le sourcil à fond, l'air satisfait. Et
comment vous faites de dire voilà,
bah, déjà, ils sont là. Hein. Déjà, moi, j'ai commencé ce métier, là, je cherchais un agent, la deuxième année d'un gain-fille, je suis allé voir un agent. Il m'a dit, je ne peux pas te prendre dans l'agence et je pense que tu ne pourras pas faire de cinéma, tu as des sourcils beaucoup trop mobiles, tu es beaucoup trop expressif pour la caméra, ça n'ira pas. Je dis ok. Puis après, on s'est revus à Cannes, festival.
Il était sourcilophobe.
Il dit, je sais pas, bon, ça, vous pensez que c'est un frein? Bon. Mais, c'est instinctif, j'y pense pas. Si, sur les OSS, j'y pense, évidemment.
Parce qu'il y a plusieurs phases de sourcils. Il y a les sourcils comme ça, le sourcil tout seul.
Oui, t'as ça, t'as le sourcil bonnet, t'as le sourcil vainqueur, mais il n'y a pas que ça, il y a la main gauche souvent de Sean Connery, tu as la façon de se retourner aussi comme ça, tu ne te tournes pas comme ça, tu te tournes un peu par en dessous, ça des trucs un peu Alain Delon faisait ça très bien aussi. Il y a des petites manies, des manières comme ça d'acteurs beaux gosses qu'il faut avoir là-dedans, parce que c'est le cahier des charges en fait. Quoi.
Moi j'aimerais qu'on regarde une autre scène qui est pour moi la scène qui vous a valu un Oscar. Parce que souvent quand on parle de The Artist, on montre les scènes de danse et les choses comme ça, alors que selon moi, la scène la plus difficile, c'est celle-là. J'aimerais qu'on la commente.
C'est vraiment le chien qui fait le boulot. C'est le petit Huggy, le regretté Huggy. Je crois que c'est une prise. C'est une prise entière. Coup de bol, un matin, c'est le chien, c'est la grâce. Je dois amuser ma femme, Anne Miller, et on ne sait pas vraiment comment faire. Alors elle voit le journal, je dis « Oh, c'est rien, qu'est-ce qui se passe ? Tu me parles de cette petite figurante, c'est rien du tout. » Enfin, je pense que la scène s'arrête assez rapidement. Et je ne sais plus du tout si c'était prévu dans le scénario. Mais si je crois que je mettais le chien... Enfin, le chien était sur la table, de fait, parce qu'il ne se quittait jamais. Et il se passe quelque chose où ce chien... le maître est derrière l'actrice, et ce chien fait un truc avec sa patte. Et donc moi, c'est une espèce de vision 360, je suis exactement la patte du chien, et puis il se courbe, et puis je me courbe, et puis ça fait un truc, ça fait une scène magique. Et c'est peut-être la seule fois que ça m'est arrivé, au bout de 10 jours de tournage, je me dis, il se passe quelque chose avec ce film, il y a quelque chose. Je regardais les figurants, la joie des figurants, le choix des figurants, la liesse, les musiques qu'on pouvait mettre sur le plateau, tout était déjà un peu écrit. Il y a quelque chose qui s'alignait comme ça. Le choix de John Goodman, le fait qu'il... McDowell, le fait qu'ils aient dit oui. Voilà, tout ça, tout se mettait en place super bien. Tout était, je sais pas, l'inspiration de Guillaume Schiffman sur sa lumière. Et puis évidemment, le travail de Michel Hazanavicius qui était incroyable. Ce début, d'ailleurs, qui est quand même génial, le début de ce film, où le personnage dit je ne parlerai pas, je ne dirai rien. Voilà, ça, c'est un des moments, ça, c'est un de mes plus grands souvenirs, ça. Là, je me dis, là, il se passe quelque chose. Là, je sais que je suis... Là, je sors un peu de mon personnage et je regarde ce moment. Regarde le visage de ce jeune homme à côté. Oui, c'était on était déjà sur un nuage, en fait, sur le tournage. Ça se voit. On est bien, on est heureux, on a du bol, on est... s'aligne bien. Puis ce chien, c'est fou. Ce chien, je représentais pour lui, je pense que j'étais une grosse saucisse. Parce que j'avais des saucisses partout, dans mes ourlets, dans mes poches. Il fallait qu'il me suive. Donc il s'appelait Huggy, et dans le film, il s'appelle Jack. Donc chaque fois que j'avais la tête tournée, je faisais Huggy, Huggy, Huggy. Et il me suivait, donc j'avais de la pâte, d'une espèce de pâté de saucisse dans le cou, pour qu'il me lèche. Donc je représentais vraiment une grosse saucisse pour lui. Mais bon, ça rendait quelque chose de très affectueux.
Il a eu la palme d'og.
Il a eu la palme d'og, oui, absolument. Ouais.
Il y a un moment que j'aimerais qu'on regarde, c'est évidemment l'Oscar.
And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist.
Wow. Thank you. Ouais. I love your country.
So many of you here tonight have inspired me.
Il faut m'enlever ça.
Non, on enlève.
Thank you, Michel.
Vous avez demandé à l'enlever.
Oui.
Ouais, pourquoi?
Parce que je préfère le souvenir que j'en ai, le souvenir dans mon esprit plutôt que de revoir ça.
Fébrile.
Je suis fébrile, mais oui, là.
Ouais.
Là, en revoyant ce jeune homme, ça fait déjà assez longtemps Puis le cerveau, il est habile pour garder les bonnes choses. Alors j'ai fait un peu mon tri dans ces souvenirs, dans ces images-là. J'aime bien me souvenir de la voix de Nathalie Portman qui dit Jean Dujardins. Ça, c'est joyeux. Je m'aime moins sur scène. Je pense que j'explosais aussi parce que j'avais un. C'est très très long. C'est vraiment une course politique énorme. C'est 6 mois de. C'est 6 mois de
d'intrigue.
Ouais, d'interview, de rencontres publiques. Et je donne. Je suis usé, en fait. Et j'ai qu'une envie dans mon putain. Je dis, en fait, je rentre dans mon pays. Je me casse. Je suis content. Mmh. Ça y est. On a réussi ce tour de force. C'est absolument fou. Hein, c'est merveilleux. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Il faut que je revienne dans mon pays pour tourner mes OSS 117. Moi, on m'attend là. Il faut que je fasse mes trucs. Hein. Vraiment, je pensais ça avec beaucoup de naïveté, quoi.
French After All.
Ouais. Mais j'avais envie de. Presque qu'on l'oublie, ce truc-là. Parce qu'en plus, c'est même. Tu sais, quand tu arrives en France avec un Oscar, on te vouvoie pendant un mois, on te célèbre pendant un mois, et puis très rapidement, d'autres choses s'installent.
Mm.
Il va forcément il va péter les plombs. Ça va forcément le modifier.
Mm.
Et tu dis, mais non, j'ai jamais eu envie que ça me modifie. Ça fait changer les autres, beaucoup.
C'est ça qui est une notion intéressante. C'est souvent, c'est les autres qui changent.
Souvent avec la notoriété, d'ailleurs. Mm. Mais là, t'imagines, c'est comme si tu ramenais le Graal, alors tu dis, moi, je ramène une coupe.
Mm.
Je la pose sur une étagère et puis je continue mon truc. Mais très naïvement, je me suis dit, il n'y a pas de problème. Évidemment, ça change le regard des gens. Je l'ai vu après. Mais on ne sait même pas ce que c'est. À ce moment-là, tu es sur le toit du monde.
Mm.
Tu t'en rends pas compte. Si tant est que ça veut dire quelque chose, meilleur acteur, parce que c'était juste dans un film, un moment qui suscite le plus d'engouement. On sentait que, depuis quelques prix, The Artist était dans son couloir. Mmh. 80 ans après, tu refais un film muet noir et blanc, il a une puissance d'image énorme, tu ne peux finalement le comparer à aucun autre film. Il est en train de s'installer très, très mécaniquement, très, très simplement et très logiquement dans chaque prix. On est tous très surpris, on se dit c'est fou. On remercie Michel en disant quelle idée t'as eu là de dingue, cette idée de fou de refaire un film muet noir et blanc qui fonctionne, qui plaît, qui parle aux gens, qui émeut.
Thomas Langman aussi.
Et Thomas, oui, les risques de Thomas, bien sûr. Thomas qui a pris des risques aussi, bien sûr. Mais non, c'est un passage. J'ai toujours dit c'est un passage. Je suis pas né avec l'Oscar et je ne suis certainement pas mort avec l'Oscar.
On va recevoir Yann Kounen dans un instant, mais j'aimerais qu'on parle d'un autre réalisateur. C'est Bertrand Blier.
Ah oui.
Qui a parlé des acteurs comme personne dans un film qui s'appelle Les Acteurs.
Ouais. Qui marcherait plus maintenant d'ailleurs si les acteurs arrivaient.
Exactement.
Ouais.
Et j'aimerais qu'on parle juste de cette scène.
Mais moi, je m'en fous de pas être un marrant. Je suis pas là pour être un marrant. Je suis pas là pour vous applaudir, je suis là pour vous soigner. Bon, vous me direz, les acteurs sont des gens fragiles, il faut les protéger, les manipuler avec précaution. Mais est-ce que c'est une raison pour les laisser mourir alors qu'on pourrait les sauver? Tout ça parce qu'on se demande s'ils vont pouvoir supporter l'épreuve. Moi, je leur dis la vérité, moi. Et puis la vérité, est-ce que c'est important? La vérité, ils l'entendent pas. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière. Comment s'appelle cette actrice, la comique une fille assez connue, elle a débuté au café-théâtre avec la bande à Junio, Blanc, l'Ermite.
Une grosse?
Oui, assez grosse, assez vulgaire.
Balasco?
Oui, Josiane Balasco.
Oh, je ne l'ai jamais aimée, celle-là.
Ah, si, elle est sympathique.
Oh, une pute, oui.
Oui, c'est une pute, mais bon après tout, nous, on n'est pas là pour juger.
Il vous parle, cet extrait?
Tout le film me parle.
Non, c'est vrai que c'est un film que tu referais maintenant en 2025 avec tous les acteurs qu'on a là, ça changerait forcément. J'étais très étonné que ce film ne fonctionne pas vraiment à l'époque. Bah, c'est la grande poésie absurde de Bertrand Blier. J'ai eu la chance de le côtoyer, de faire un film avec lui. C'est une musique, c'est une partition, Bertrand. Aucune impro, pas de place à l'impro. Chaque virgule, chaque syllabe doit taper au moment où elle doit taper. Et non, sur l'inquiétude de l'acteur. C'est un peu la question qu'on se disait en commençant aussi, c'est pourquoi on fait ce métier-là, pourquoi ça nous soigne. J'ai toujours pas les réponses à ça, mais il y a des bienfaits, forcément, d'être en vacances de soi-même, d'avoir la possibilité. Puis c'est un refuge, quoi. Un refuge, 8 semaines, 9 semaines, parfois, d'obéir juste à une feuille de service. Ça peut être un peu vertigineux, le retour à la vie, quand tu sors de ta feuille de service. On dit, j'ai plus de feuille de service. Ah non, on s'occupe plus de toi, c'est fini maintenant. Tu retournes dans ta vie. C'est un prolongement de l'enfance. Et dans l'enfance, il y a des angoisses d'enfant. Et c'était un grand angoissé. Et il en a fait une œuvre, Bertrand Blier. Il a fait une grande œuvre sur l'angoisse. Alors il a décidé d'en rire. Il nous a fait des jolis médicaments, là. Tu peux les regarder en disant, oui, ça résonne d'une façon ou d'une autre. Il y avait parfois, d'ailleurs, il écrivait un peu comme Picasso peignait. C'est-à-dire que tu partais d'une droite, et puis une courbe l'amenait à un rond, et puis parfois... Souvent, t'as des chefs-d'œuvre. Lui, c'est pareil, il écrivait, il partait, il démarrait, il s'arrêtait au milieu. Parfois, on lui a dit, il n'y a pas vraiment de fin, ça ne se termine pas, tu la termines pas, ton histoire. Alors, il était de mauvaise foi, parce qu'il pouvait dire, non, mais ça, c'est de la mise en scène. J'ai dit, non, elle n'est pas terminée, notre
histoire.
C'est
une douille, ouais.
Ouais, il faut une pirouette, il faut quelque chose. Peut-être qu'il n'avait pas envie de les terminer, ces histoires non plus. Ça voulait dire aussi quelque chose.
Moi, je pense que ce qui veut dire aussi quelque chose, c'est le choix de vos films. Et le fait d'avoir choisi de faire ce film avec Yann Kounen, L'homme qui rétrécit, ça veut dire plein de choses. Yann Kounen, très grand réalisateur français, arrive juste après la bande-annonce.
Élise ! Au secours !
Vos bilans sont normaux, vos radios osseuses sont normales.
Je vais...
Le scan est bon.
Et t'amènes, tu vas ?
Ouais.
Il ne vous est rien arrivé de particulier ? Un événement traumatique ? Un choc émotionnel ?
L'araignée, tu l'as ?
Non, je vais pas la tuer, écoute. C'est utile, les araignées, tu sais. Ça mange les moustiques.
C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas, là.
T'as peut-être un peu maigri ? Vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé ?
Non.
Tu te sens comment ?
Tout va bien, chef. Tout va bien, tout va bien !
Paul ?
Mia !
Notre vie est passagère. Un film. C'est ce que nous sommes.
L'homme qui rétrécit, réalisé par Yann Kounen. Et Yann Kounen est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour.
J'avais très envie de vous avoir ensemble pour parler de cinéma, pour parler de votre travail. La première fois que vous aviez travaillé ensemble, c'était sur 99 francs. J'aimerais qu'on regarde ensemble une scène de 99 francs et que vous me parliez tous les deux de cette scène. C'est une scène que Yann a choisie. Et ce que j'aime dans cette scène, c'est que c'est une simple réunion de bureau, mais qui est filmé comme si c'était un film de braquage. On regarde.
Je crois qu'à la base, je voulais faire le bien autour de moi. Cela n'a pas été possible pour deux raisons. Parce qu'on m'en a empêché. Et aussi un peu parce que j'ai abdiqué.
C'est ce guéri. Le double insight, plaisir fashion de la bande de vue, nous dégoûte. Parce que nous ne voyons pas la race. Nous traversons une crise profonde dans le laitage.
Vous êtes bien placé pour le savoir.
Depuis l'affaire de la vache folle, le yaourt est mondialement menacé. Dans ce marché en érosion, notre solution, c'est l'alicament. L'alicament, c'est un aliment qui serait aussi un médicament. Et là, Starlight innove et se focus sur une nouvelle vision du fromage blanc, le body minding. Avec Starlight, je mange intelligent, donc je suis intelligent. Donc Starlight me rend intelligent et c'est là qu'on les attrape. Hein. C'est un petit peu la tête et les jambes en quelque sorte.
Le mec qui ne rigole pas à la non-blague de Jeff, c'est celui qu'il faut convaincre. Alfred Duller, 51 ans, scorpion ascendant bélier, directeur du marketing de la division produits frais chez Madone. Costume, Hugo Boss. Parfum, Hugo Boss. Poète préféré, Hugo Boss.
C'est dingue de filmer une réunion comme ça. Comment est-ce que vous l'avez découpé, imaginé ?
C'est vrai que quand je la revois, il y a ce que j'aime dans ce film, c'est à la fois on fait... à la fois c'est assez barré, c'est frontières, c'est borders, et on peut mettre de la mise en scène... Il y a les acteurs qui rentrent dedans, il y a de l'imaginaire parce qu'il a un rêve après, enfin voilà.
Elle est christique.
Voilà. et puis que cette scène, c'était aussi pour en avoir fait pas mal de réunions. Quand je faisais de la publicité, je trouvais que c'était intéressant d'en faire du cinéma à partir de. Mais ce film est un grand souvenir pour moi.
Ça a été un tournant, Jean Dujardin, 99 ans.
Oui, c'est marrant, parce que le producteur ne s'attendait pas à ce que je dise oui, d'ailleurs. Moi, je me souviens de la lecture de ce projet, je dis c'est complètement fou. Comme dit Yann, il y a eu beaucoup, beaucoup de liberté, plein de possibilités. Là, c'est super, parce qu'on casse le quatrième mur, là, on est dans la pub, on peut dire exactement tout ce que tout le monde pense, d'ailleurs, à ce moment-là. Ça a été un tournant où il a fallu que je dise sûrement, mais c'était même pas réfléchi à ce point-là, je sors de deux gros succès, qui sont Brise de Nice et OSS 117, et c'est comme si j'avais envie d'un peu de casser le jouet, de dire il faut que j'aille là-dedans, pour justement que je vous donne pas toujours la même petite boutique. Je vais ennuyer tout le monde, je ne rentre pas dans une franchise. Et c'était le meilleur objet pour ça.
Mais j'ai l'impression que c'est votre réflexe, à chaque fois que vous avez envie de casser le jouet, vous appelez Yann Kounen.
Si je pouvais le faire plus souvent encore. Mais parce que Yann est un provocateur élégant. Il a ça dans sa mise en scène. Parce qu'il aime bien être sur les coutures, il aime bien être au bord du précipice, mais il le fera toujours avec beaucoup d'élégance. Et c'est son œuvre le dit, mais c'est vrai que si on veut voir du Yann Kounen, il n'y a qu'au cinéma qu'on le voit le mieux, vraiment. Il fait des films de cinéma pour le cinéma. Par les temps qui courent, ce n'est pas tout le temps le cas.
L'homme qui rétrécit, ça me fait penser à un film qui m'a bouleversé mon enfance, mon adolescence, que je revois beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'aventure intérieure. Ça fait partie de vos références ?
J'adore Joe Dante et ça fait partie des références. Mais moi, ma référence, c'est vraiment L'homme qui rétrécit. Parce que moi, je suis plus vieux. Quand j'avais 11 ans, je l'ai vu à la télévision. Et ça m'a marqué.
Comment on refait un film qu'on a aimé, qui nous a marqué ? Comment on le redécouvre ? Comment on le réimagine ?
C'est une très belle histoire. C'est un film, c'est un roman d'abord à la base, donc on réadapte. Alors celui-là, il n'a pas été adapté depuis 1957, mais c'est un grand roman. Et l'idée, alors on sait qu'on est face à un film qui est culte, qui est très fort. Donc on revient à la source et on regarde comment le faire. Et on rend à la fois hommage à ce film, mais on va aussi explorer un peu plus autre chose. C'est ça l'idée. J'ai pas eu d'appréhension parce que c'est voilà.
Les relations acteur-réalisateur sont rares quand elles se répètent finalement. Il y a peu de réalisateurs avec qui vous avez tourné souvent. Yann Kounen en fait partie. J'aimerais vous conseiller de cliquer sur un documentaire, une série de documentaires en 4 épisodes. C'est le truc qu'il faut absolument voir en cette fin d'année et c'est un documentaire sur Martin Scorsese. Et j'aimerais vous confronter à une scène où en fait. Martin Scorsese n'allait pas très bien dans sa vie. Il était à l'hôpital.
Et De Niro est venu le...
Exactement. Et Robert De Niro vient le voir. On regarde et on en parle. On clique.
A friend of mine took me to the emergency ward and left me there, basically. And I was in there 10 days and nights, pumped me full of cortisone. And then Bob came to the hospital. We had been taking a break. I had said, where are we going? As a collaboration. What stories do we want to tell?
Can you remember coming to the hospital?
Yeah. I mean, I was worried about him. And I was starting to work on Raging Bull.
While we were doing New York, New York, Bob carried around the Raging Bull book with him all the time. It was about Jake LaMotta, a really tough, tough guy. And, you know, really questionable character, and I'm being kind.
Bob kept pushing him, saying, come on, come on, let's make this movie, let's make this movie. And Bob Marty kept saying no.
Driving me crazy with this, doing this boxing movie. You know, I don't do sports.
Couldn't imagine anybody else doing it. It had to be him.
So Bob is there at the hospital.
It was a question that I was thinking that maybe he won't do it. And I said, you know, this is something to do.
And looked at me and said, what the hell do you want to do? You want to die like this? You know, you want to die?
It was a low point, and I said, Marty,
you're right for this picture. You should do it. You know, so I said, I looked at him and I said, okay.
Qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans ce passage?
Déjà l'émotion, elle est quand même formidable. Non, ce qui est marrant, c'est d'avoir, c'est souvent, pas un peu le contraire, mais parfois un metteur en scène peut savoir avant toi ce qui est bien pour toi. Tu peux refuser un rôle, tu peux refuser un film. Ça m'est arrivé 2-3 fois où le metteur en scène te dit que tu te gourres, tu dois faire ce film, je t'assure. Et je dis oui, mais j'ai pas l'entrée, je sais pas par où passer. J'aime beaucoup le film, mais j'ai l'impression que c'est pas moi, je ne sais pas. Je dis, t'en occupes pas, ça. T'occupes pas, tu sais pas tout. Mais c'est vrai que des fois, on sait pas tout. Là, dans ce cas-là, c'est intéressant. Parce qu'il y a un homme qui est à l'hôpital, qui va peut-être passer de l'autre côté, et t'as le frangin qui vient le chercher en lui disant, sans toi, ce film n'aura pas la même puissance, il n'aura pas la même grandeur et la même sensibilité. Il est au courant de... Il sait à qui il a affaire. Mm. Mais c'est vrai, quand on connaît un peu l'autre, ou quand on renifle un peu l'autre, même sans tout à fait se connaître, ce qui est un peu notre cas avec Yann, on se connaît depuis longtemps sans vraiment se connaître, on sait qu'on s'apprécie, on sait qu'on se donne des choses. Et c'est comme si tu savais que ses grandes, sa vision, son honnêteté, son intégrité, sa pudeur aussi, participera au film. Ça va être un joli moment. Faut être bien accompagné. Alors on n'a pas forcément les mots des fois pour le dire, mais j'étais content qu'il accepte. Et dans ce cas-là, là on dépasse le cinéma. Là, on est en train de parler de deux hommes, c'est une histoire d'amour là, une histoire d'amour, amitié.
Vous avez tourné avec Scorsese.
Oui, j'ai eu ce bonheur-là, 4 jours. J'ai vu God. On l'appelle God sur le plateau. Et c'est pas du tout une prise de pouvoir ni rien. Hein. Ce qui m'a le plus saisi, c'est l'arrivée sur le plateau. C'est-à-dire que le premier assistant demande à tout le monde de se taire. Simplement parce que Marty arrive et il dit bonjour à tout le monde. Il prend le temps de dire bonjour à tout le monde, d'imposer son temps, d'imposer ses bonjours, et de dire très bien, gentlemen, allons-y, on se met en place. Il ne veut pas de bruit, il veut juste commencer à peindre. Voilà, on va commencer à peindre, la toile est vierge, maintenant on va peindre. C'était très vite agréable, parce que ça peut te saisir un peu quand tu arrives. Il y a quand même Leonardo DiCaprio devant toi avec Scorsese, et tu dis... Donc on est d'accord, c'est le même métier, il va falloir que je me décontracte. Et en fait, tu te décontractes vite, parce que il t'autorise à... Scorsese te dit, si tu veux prendre la tasse, prends la tasse, propose-lui un café. Je lui dis, j'aimerais bien regarder Léo un peu comme une femme, je suis un banquier suisse un peu véreux, j'aimerais bien qu'il mette son argent chez moi, ça m'intéresse. J'aimerais le séduire, j'aimerais le regarder comme ça. Il me dit, oui, c'est une bonne idée, vas-y, regarde-le. Charme-le, c'est bien, ok. Quoi d'autre? Je dis, j'aimerais bien me lever, faire ci. Oui, très bien, c'est bien. Si tu le sens, c'est que c'est bien. Très, très respectueux, très, très au calme. C'était très doux et très simple. Même le fait qu'il m'autorise à parler en français, il aime ça. Donc c'est pour ça que je mets des « bouge ton cul ». Il a dit « bouge ton cul, very good, bouge ton cul ». Ça faisait beaucoup rire DiCaprio aussi. Donc je me suis senti très très bien, c'est un très très bon souvenir. Dans un film notable de... Ça c'est mon album photo, c'est chouette.
On a vu Robert De Niro, si on devait dire qu'on a eu un Robert De Niro en France, moi je dirais que c'était Jean-Paul Belmondo. J'aimerais qu'on regarde un extrait ensemble, disponible sur Canal, c'est extrait de À bout de souffle.
J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh, oh. Des petites filles qui font de l'autostop. D'accord, je stoppe et je facture un baiser du kilomètre. La petite n'a pas l'air mal. La jolie cuisse. Oui, mais l'autre. Oh, après tout, merde, elles sont trop moches. Il n'y a pas d'amour. Hé hé hé.
Ça résonne.
Ça résonne, alors ça passerait difficilement maintenant, c'est sûr. Ce qui est drôle avec ce film, c'est que c'est sûrement le plus Belmondo, parce que c'est l'amorce, et c'est le moins Belmondo de ce qu'on connaît de lui. Il se reposynchronise, on est... je ne sais pas s'il comprend tout à fait ce qu'on lui demande avec Godard, ça ne va pas être simple, et il a raison d'ailleurs d'être, à mon avis, très disponible, mais... J'ai l'impression que le Jean-Paul aussi, c'est un tremplin pour Jean-Paul, mais le Jean-Paul s'est créé presque plus avec de Broca, j'ai l'impression.
On a parlé de l'apparition de l'acteur, j'aimerais qu'on parle aussi de sa disparition. Moi, je me souviens très bien de la soirée que j'ai passée, quand il est parti. J'étais chez moi, j'étais pas bien. Est-ce que vous en souvenez, vous ?
Quand Jean-Paul est parti, je me souviens des... 15 jours avant, on avait mangé ensemble avec sa famille, quelques amis. On se voyait beaucoup avec Antoine Duléry aussi, qui m'avait présenté Jean-Paul, qui m'avait fait ce cadeau-là. Et il était, je me souviens, il était accroché à son chien. C'était très important, comme une espèce de prise terre, quoi, pour rester encore un peu là, quoi, pour tenir. Mais c'est admirable ce qu'il a fait, tenir 20 ans avec un AVC, être aussi rayonnant, aller voir tous les films, toutes les pièces, s'intéresser à la jeune génération. Et là, ce dernier repas, c'était vraiment le dernier repas. Il avait choisi, comme il avait toujours choisi d'ailleurs. Ces grandes cascades, ça a été de passer justement d'un film à l'autre, d'un genre à l'autre, d'un metteur en scène à l'autre. Et là, de la même manière, il s'est dit, j'ai vécu, maintenant je peux partir. Il a été courageux jusqu'au bout. Il a été lumineux et courageux jusqu'au bout, cet homme.
Avant qu'on se quitte, petite touche marrante. Jean Dujardin a le chic de choisir des rôles prémonitoires. Et un de ses rôles les plus prémonitoires, Yann, vous allez halluciner, c'était dans Platane avec Éric Judor. On regarde.
J'ai un truc pour toi. J'ai un truc à te proposer et c'est du sérieux.
Ah bon, c'est quoi ?
Oui. C'est, pour l'instant, tu sais, moi, je bosse souvent avec des gens.
Des ricains ?
Non, pas avec des ricains, mais j'ai besoin de bosser un peu en confiance.
Ouais.
Pour ça, est-ce que je peux te faire confiance ?
Bah ouais, bien sûr.
Est-ce que je peux te faire confiance ?
Mais j'ai été dit oui.
Ok. Bon, le projet, c'est un...
J'ai pas compris.
Tu vois pas ?
Non. Tu veux... Ouais, mais dis-le moi, en fait.
Non, mais je fais quoi avec mon doigt, là ?
Tu peux pas me...
quelle lettre ?
Ah, c'est une lettre, parce que là, j'avais compris, c'était un dessin.
Regarde !
C'est un chapeau. N. N.
Un Z, je fais un Z. Un Z qui veut dire ?
Zodiac. Tu veux faire les... Chevalier du Zodiac ?
Arrête avec tes oreilles, t'es con quoi, Zorro ?
Bah oui, oui, Zorro, le Z. Oui, ah bah j'avais pas capté.
Non, non, mais
oui,
c'est
peut-être qu'il faisait mal, enfin je suis pas...
Peu importe. Ouais. Non, mais enfin...
Bah si, normalement c'est comme ça, il fait comme ça.
Oui, mais si
j'ai... Oui, ça va être une épée.
J'aime pas te sortir l'épée.
Bien sûr, non. C'est ça que tu veux faire ?
Bah...
Oh putain !
Voilà, mais on parle pas pour l'instant parce que c'est pas signé.
D'accord, ok.
J'ai des gens dessus, j'ai déjà...
Putain !
Pénélope Cruz qui est intéressée, ouais.
Putain, mais je ferais Zorro ?
Non. Non, non, c'est... Il y a... comment dire... pour le sergent Garcia, j'aimerais bien avoir, mais bon...
José Garcia.
Comment tu sais ?
Ah non, moi c'était une vanne. Pourquoi c'est lui ?
Non, je suis pas du tout en mode vanne, j'ai pas envie de me marrer là-dessus. Ça, je bosse, ça fait...
Oui, d'accord,
ça fait 8 ans que je bosse là-dessus. C'est un vrai projet. Et je voudrais te proposer, si t'es OK, rôle de Bernardo.
Bernardo, c'est le gogol.
Non.
Si, c'est le...
Non, il est pas... Mais non, il a toute sa tête, Bernardo, il est juste muet.
Muet à gogol, quand même.
Non. Comment il vous a embarqué là-dedans?
Gogole un peu comme. À la lecture, tu sais, quand c'est super drôle à la lecture, c'est rare, hein, mais quand c'est très très drôle, il y a peu de chance quand même, ou alors vraiment, faut vraiment être débile pour se foirer sur le tournage. Mais là, avec le talent d'Eric, enfin, on a ri, mais il y en a plein. Enfin, je l'ai pas revu, moi, depuis très longtemps, cet épisode-là. Évidemment, on joue toujours les odieux, on joue toujours les connards, mais oui, c'était prémonitoire, c'est drôle, tu vois, comme quoi. Je pensais d'ailleurs à l'époque, ça serait la seule fois où je pourrais faire Zorro, ça serait dans Platane. Bon, tu vois. Et qu'est-ce que c'est drôle comme écriture.
Et vous avez été Zorro.
J'ai été Zorro à 50 ans, ouais, Zorro sur le retour. Mais j'étais content aussi, j'étais content de le vivre, ça.
De quoi vous avez envie, là? Est-ce qu'il y a encore une envie de comédie?
Oui, j'ai des envies de comédie, là. Ouais, il faut que je sorte un peu de l'isolement. Ça y est, j'ai traversé des... J'ai traversé la solitude. J'ai des envies de... Là, j'ai des envies de troupe, ouais. J'ai des envies de... Mais c'est pas simple à trouver, hein, la comédie qui te fait marrer. Hein, tu vois, pour que ça nous fait marrer, c'est pas tout le monde. Hein, c'est tout le monde sait pas écrire ce genre de choses et les incarner. J'ai envie de... J'ai envie peut-être encore de faire un truc que je... Non, j'ai peut-être juste envie de me marrer. Mmh. J'ai envie de retrouver Gilles aussi, Lelouch. Je sais qu'on a envie, Il y a des choses, on en parle.
Donc il y a quelque chose.
Il y a des choses, yeah. Mais on a envie de se marrer encore, et puis avec d'autres, j'ai envie de retrouver mes camarades aussi, oui.
En tout cas, merci beaucoup Yann Kounen, Jean Dujardin, d'être venu avec
merci
nous.
À vous.
Ça a été un bonheur de faire cette masterclass ensemble.
C'est gentil.
Pour une fois qu'on a Jean Dujardin qui parle de son métier.
Oui, c'est sympa. J'en sais un peu plus maintenant.
Voilà, passez une excellente soirée, où on vous a conseillé de cliquer sur plein de choses maintenant. Cliquez bien.